Le peloton RMC.
Johan Bredov.
Salut à tous, bienvenue dans le peloton RMC. Ça y est, c'est la fin de ce Tour de France qui s'est achevé de la plus belle des manières avec une étape de légende remportée sur les Champs-Élysées par Mathieu Van Der Poel et évidemment le sacre de Tadej Pogacar. En remportant pour une cinquième fois le Tour de France, le Slovène a rejoint Merck, Sanctilino et Indurain tout en haut du palmarès de la grande boucle au terme d'une édition 2026 qu'il aura écrasée dès la première étape de montagne au Tourmalet, qui aura offert ensuite son lot de surprises. Hein, Poggi, injouable, malgré un parcours qui voulait favoriser le suspense et qui se mue en équipier pour Del Toro, à Remco Evenepoel qui fait taire tous ses détracteurs, deux Français dans le top 5, même trois dans le top 10, mais pas de victoire d'étape. Il y a beaucoup de choses à retenir de ces trois semaines de dingue et qu'on n'attendait pas forcément. Dans le peloton RMC aujourd'hui, Jérôme Coppel est là. Salut Jérôme.
Salut Johan, salut les amis.
Bon, t'as passé trois bonnes semaines, Jérôme.
Oui, trois très bonnes semaines. Tu sais, c'est un peu la colonie de vacances, bah hein, l'intégral tour. Tu vois, tu t'occupes un peu de ton grand-père Christophe Cessieux. T'es avec le copain Gégé Pinault. T'écoutes les blagues douteuses de Pierre-Yves Leroux. Non, non, c'est très sympa.
Je suis pas sûr que tu me donnes très envie de faire le Tour de France.
Ah,
en
si,
t'es là.
Ah, si.
Heureusement que t'es là pour.
Non, non, non. Les reporters sont incroyables.
Mais oui,
c'est
bien
classe.
Sûr. Léna Marjac, Maria Azé, Kevin Morand, Romain Asselin. Je crois que j'oublie personne hein, de ceux
Rodolphe Rio,
tout à fait, qui était là. Voilà, il y avait énormément de monde pour suivre le Tour de France. Et sur la radio digitale, on a suivi également le Tour de France et Maxime Martinez était présent. Salut Maxime.
Salut à toutes et à tous. Mais oui, on a été présents pendant les trois semaines, avant et après l'étape.
Ouais, on a tenu la baraque, on lançait comme ça, Jérôme Coppel, on était les poissons pieds.
Oui.
François Delataille également, qui a beaucoup bossé sur le Tour.
Ah, moi j'étais là, mais j'étais plus là à l'écrit. Je tapais avec mes petits doigts, tout ça.
On a tout en fait, on a toutes les formes, la digitale, la radio principale et l'écrit avec François. Voilà pour la présentation du casting aujourd'hui du peloton RMC. Je vous propose, avant de commencer, de revivre les meilleurs moments de ce Tour de France. Évidemment, c'était chez nous, c'était sur RMC.
Il nous bloque, notre polo national, 19 ans à peine, il est là, à la bagarre, avec les cadors, avec les géants du Tour de France.
Grand coup de chapeau à ce gamin. Il est venu et il est dans le top 5, 4e et premier Français de ce Tour de France.
Lenny Martinez est 5e, on a donc deux Français, 4e et 5e. Lenny Martinez qui finalement est 1 minute 6 derrière Paul Sexas.
Attention Pogacar qui va s'approcher de Del Toro. Et la victoire collective pour le duo Pogacar-Del Toro. La main sur le crâne de Del Toro de la part de Tadej Pogacar qui vient amener le maillot blanc sur le podium, le maillot jaune et le maillot blanc. Le petit signe Del Toro avec les cornes et Lenny Martinez qui arrivera très certainement dans le même temps.
C'est parti pour Remco Evenepoel, le sprint de Remco Evenepoel, c'est lui qui va gagner à moins que Tadej Pogacar n'arrive à le sauter sur la ligne. Remco Evenepoel qui joue un drôle de tour à Rouilleux. Attention, il sera soit Tadej Pogacar, c'est pas terminé, il est bien Tadej. Non, c'est pour Remco, la victoire belge. Les UAE se sont fait piéger aujourd'hui. Victoire de Remco Evenepoel devant Tadej Pogacar et Isaac Del Toro. Bravo monsieur, bravo Remco.
Remco Evenepoel qui lui aussi a été l'un des grands hommes de ce Tour de France.
Du côté de Montmartre, on voit du jaune, on voit du vert, il y en a de toutes les couleurs.
On se croirait en finale de la Coupe du Monde de foot.
C'est dingue. Franchement, ça file les poils. Hein. Je sais pas vous messieurs, mais moi, de voir cette ambiance dans Paris, cette culture maintenant de la rue Le Pic, c'est dingue. Voilà, c'est une belle trouvaille.
C'est un peu une mini classique, hein, cette rue Le Pic.
La bagarre incroyable entre les géants du cyclisme mondial, c'est génial. On se régale dans cette dernière étape. I'm so
Voilà ce qui s'est passé dans ce Tour de France. Alors au-delà des moments forts, c'était surtout tous les moments surprenants de ce Tour, parce qu'il y en a eu énormément, il y a plein de choses à dire. Tout à l'heure d'ailleurs, je ne l'ai pas dit dans le sommaire, mais on fera le briefing de Jérôme, on fera un quiz aussi. Et là aussi, on va voir qu'il y a énormément de surprises, ce ne sera pas évident, je vous le dis tout de suite. Comment on juge ce Tour de France, Jérôme ? On a entendu dans la production faite par Roxane Lacusca énormément de choses. Comment tu juges ce Tour de France ? Est-ce que c'est un bon cru ?
Ben oui, moi je trouve que c'est un bon cru. En fait, ça dépend toujours de quelle manière tu le regardes. Moi, j'avais assez vite fait le deuil de la victoire au classement général. Enfin, le deuil. Bon, je veux dire, c'était sans surprise que Tadej Pogacar allait gagner ça. Donc après, une fois que tu as mis ça de côté, ben, tu regardes ce qui se passe ailleurs. La bagarre pour la deuxième place, la troisième place avec Paul Sexas, un Remco Evenepoel qu'on n'attendait pas à ce niveau, un Lenny Martinez non plus, des victoires d'étape avec... Voilà, des fois des manières un peu surprenantes, mais Del Toro à Barcelone, par exemple. Donc, en fait, moi, j'ai tout adoré sur ce tour et surtout la fin en apothéose à Paris. On a entendu dans le résumé, c'était pour moi quasiment la plus belle étape du tour hier.
On va en parler tout à l'heure de cette étape de Montmartre, plus belle étape du Tour, peut-être une des plus belles de tous les temps, en tout cas pour une arrivée sur les Champs-Élysées. Jérôme le disait, il y a Tadej Pogacar qui a écrasé ce tour très rapidement.
Ah oui,
mais c'était pas la volonté des organisateurs qui avaient tracé un parcours avec toutes les grosses étapes en dernière semaine, qui voulaient préserver le suspense jusqu'au bout, François. Et finalement, bah, il a fallu aller que le Tourmalet presque. Peut-être que je vais un petit peu trop loin, mais au Tourmalet, on savait que Pogacar allait gagner le tour.
Bah oui, mais c'est le problème du parcours, je trouve, justement. C'est-à-dire que si tu commences ton tour en Catalogne, et bah forcément, tu es obligé de faire les Pyrénées très tôt dans le parcours. Et forcément, tu sais que si tu emmènes le peloton sur le Tourmalet, sur les Pyrénées, et que tu as un Pogacar dedans, ça va très rapidement figer un peu le classement général. Et c'est, tu ne pouvais pas tellement faire autrement. Et c'est dommage pour le suspense.
Pourtant, c'était des Pyrénées édulcorées.
Ah, exactement, c'est ce qu'ils ont essayé de faire, c'est de d'étaler un petit peu. Mais rien que le Tourmalet, ça suffit. Et probablement que l'an prochain, ce ne sera pas comme ça, puisque l'an prochain, ils vont arriver d'Édimbourg. Donc, ils vont probablement commencer par, je ne sais pas, la Normandie, la Bretagne.
On va parler un peu de Bretagne.
Le classement va être un peu plus longtemps à se figer et ça sera tant mieux pour le suspense.
On parle aussi d'un retour de chrono long l'année prochaine. Donc,
merci.
Ça va te faire plaisir, Jérôme. Ah, bah, j'ai mis une pièce dans la machine, hein, je savais ce que je faisais.
Ouais, c'est vrai que ça peut faire la différence. On parlera de Remco Evenepoel, mais ça peut aider les Remco. Et on se doute que quand tu as un Paul Sexas qui va être de mieux en mieux année après année, forcément les chronos longs vont faire leur retour sur le Tour de France. Donc Pogacar écrase ce Tour de France.
Oui.
Peut-être qu'un des premiers faits surprenants aussi, c'est que Jonas Vingegaard sur le Tourmalet, il prend 30 secondes au sommet et ensuite il craque dans la descente. C'est peut-être ça en fait qui a gâché entre guillemets la course au maillot jaune, Jérôme. C'est le fait que Jonas Vingegaard soit désormais très très loin du niveau de Tadej Pogacar.
Ben oui, là, on avait tous beaucoup d'espérance, d'attente autour de Jonas Vingegaard, puisqu'il avait une approche du tour un peu différente. Il avait dominé le Giro. Il nous disait, et je veux bien le croire, qu'il avait son meilleur niveau, des valeurs de puissance qu'il n'avait jamais eu avant. Et finalement, quand on arrive au Tourmalet, ben, la réalité du terrain et de la forme de Tadej Pogacar le rattrape. Alors, il imite plutôt bien dans la montée, mais tu sens qu'il est déjà dans les cordes et dans la descente. Ben voilà, Tadej Pogacar fait une descente énorme, il creuse le trou. Et là, on comprend de cette étape-là que ben, le tour est plié, en fait, finalement. S'il n'y a pas de chute ou de maladie, ben, même Jonas Vingegaard ne sera pas dans le match pour gagner le général. Et là, on prend direct un coup derrière les oreilles parce que c'était un peu notre dernier espoir, Jonas Vingegaard. Même si on a beaucoup d'espoir autour de Paul Sexas, de Evenepoel, Lipovic, etc., on savait très bien que le seul qui peut-être allait pouvoir gêner un petit peu Pogacar, c'était Vingegaard. Et là, ben, première claque, quoi.
Avant l'abandon de Jonas, vous étiez déçu des performances du Danois ou on est un peu trop dur avec lui?
Pas forcément déçu, mais on sentait déjà l'année dernière qu'il était un ton en dessous et cette année, ça n'a fait que le confirmer. Donc, il n'y a pas de déception réelle, il y a juste un constat. Le constat, c'est cet écart qui se creuse d'année en année, notamment après sa chute il y a 2 ans maintenant. Voilà, c'est un constat. C'est Vingegaard, on savait que Pogacar était 5 étoiles et que Vingegaard était 4. Et l'écart s'est montré sur la course, quoi.
Et l'écart, on peut le voir dans les deux sens, hein, parce qu'il est clairement un ton en dessous de Poggi, mais il est aussi un ton au-dessus du reste.
Ouais.
Et donc, il est un peu coincé dans ce rôle de second. Et finalement, en fait, on n'a pas tellement été surpris, ça n'a été qu'une confirmation de ce qu'on attendait.
Ouais. Et donc Jonas Vingegaard au moins avait pour lui de lutter pour la première place, ce qui n'a pas forcément été le cas des autres, mais lui, peu importe, même s'il perdait du temps sur les autres.
Et cette année, il a moins répondu aux attaques de Pogacar que les années précédentes, ouais. Aussi.
Qui était peut-être un petit peu trop forte, en plus, plus forte qu'avant pour les attaques de Pogacar. Du coup, quand on a un Pogacar comme ça qui se détache, et bah, finalement, il doit trouver quand même une autre raison de vivre, une autre raison d'exister sur ce Tour de France. Il l'a trouvé, Jérôme, c'est en devenant équipier. Et ça, il a adoré. Je te propose, avant de te poser la question, d'écouter Tadej Pogacar qui a joué les équipiers de luxe, de grand luxe pour le Mexicain de son équipe UAE Team Emirates, Isaac Del Toro.
Peut-être que les gens vont parler de la façon dont j'ai aidé Isaac à monter sur le podium, mais avant tout, il m'a aidé à porter le maillot jaune et l'équipe en général. Adam qui se sacrifie, toujours Brandon aussi, comme au début. Tu sais, on ne peut pas oublier tous les jours. Aujourd'hui, c'était un honneur pour moi, rouler pour Isaac les deux dernières heures ou une heure et demie de la course. Je l'ai fait avec plaisir et j'ai réalisé à quel point il est difficile de travailler pour quelqu'un d'autre.
I realize how hard it is to work for somebody else.
Et ça, c'était la réaction de Tadej Pogacar après l'avant-dernière étape où il n'a pas suivi Remco Evenepoel. Il est resté avec Isaac Del Toro pour l'accompagner. Il lui a offert une victoire d'étape en plus, Jérôme, en tout début de Tour de France. C'est vraiment deux amis qui roulent ensemble. Tadej Pogacar, équipier, voilà, c'est ça qui le fait vibrer finalement. C'est d'aider les autres. Il a trouvé un moyen de s'amuser sur Tour de France.
Ouais, c'est ça. Il domine tellement le Tour de France qu'il lui faut des quêtes secondaires à Tadej Pogacar. Et la première, c'était de faire gagner son pote Del Toro. Ça a été fait assez vite. Et ensuite, c'était de l'emmener sur le podium. Bah, c'est dire la marche qu'il a, en fait. Parce que quand, sur cette dernière étape, on sait que l'équipe UAE était un peu décimée. On ne savait pas trop sur cette longue et dure étape de montagne vers l'Alpe d'Huez. On ne savait pas trop comment ils allaient gérer. Bon, il n'y a plus d'équipier, pas de problème. À 50 km, le maillot jaune, il prend la barre, terminé, il met tout le monde d'accord. Et il emmène son pote sur le podium. Alors, moi, je trouve ça chouette parce qu'il faut aussi que les leaders. Alors, Tadej Pogacar, il sait le faire. Hein, il sait donner aux équipiers. Tout le monde mange un peu du gâteau quand il l'a décidé. Mais après, tu as toujours l'idée de te dire purée, il n'a pas voulu quand même mettre son nom. Alors, il a déjà gagné la veille par le côté mythique, les 21 lacets. Mmh. Mais ce jour-là, ça montait par sa reine. Il avait la victoire d'étape largement dans les jambes. Même en ayant roulé 50 km devant, parce qu'il peut nous vendre un peu sa soupe en disant que c'est difficile d'être l'équipier, mais on a bien compris que même en roulant 50 km, il était encore largement capable d'aller gagner l'étape. Donc voilà, moi je trouve très bien ce qu'il a fait. Je ne suis pas sûr que gagner en haut de l'Alpe d'Huez, ça allait changer vraiment quelque chose pour lui, en termes de palmarès, de notoriété, tout ce qu'on veut. Par contre, pour lui, pour son plaisir et le plaisir d'emmener son pote sur le podium et de l'aider, de terminer main dans la main comme ça, en faisant le signe du taureau sur la ligne, je crois que ça lui a fait plus plaisir que s'il avait gagné l'étape.
Mais on l'a senti, ça tranche avec ce qu'on a vécu l'année dernière, où il était au bout mentalement, il n'en pouvait plus. Alors il disait qu'il était gêné au genou sur le Tour de France 2020. Mais c'est mentalement, on sentait quand même qu'il était un peu épuisé et peut-être fatigué de ne pas pouvoir s'amuser autant qu'il le voudrait. Là, on a vu un tout autre Tadej Pogacar, c'était du sourire du début à la fin.
Et d'ailleurs, il l'a dit, hein, c'était son Tour de France préféré. Il a vraiment eu l'impression on a eu l'impression qu'il s'amusait vraiment. Et justement aussi, il s'amusait grâce à cette complicité qu'il a tissé avec Del Toro. Il était vraiment authentiquement heureux d'emmener son pote sur le podium. Ça tranche un peu avec les déboires qu'il avait eu avec Ayuso par le passé. Et c'est hyper malin de sa part parce qu'il s'assure une fidélité éternelle de Del Toro qui a bien vu qu'il pouvait compter sur son leader et qui a envie de l'amener plus loin. Il faut quand même voir que Pogacar gagne 5 étapes et on peut en citer 3 autres qu'il aurait gagner s'il les avait voulu, c'est-à-dire Del Toro, Solaison, Evenepoel, on voit bien qu'il ne pense pas. La dernière à l'Alpe d'Huez aussi.
Totalement.
Il aurait même pu gagner hier à Paris. Il a une telle marge que oui, il lui faut des 4 secondaires et que là, il en a trouvé une qu'il a bien éclatée.
Sur les images fortes de ce Tour de France, il y a cette image donc à l'Alpe d'Huez, main dans la main, un peu comme Ino et Lemond en 86. Moi, l'image la plus marquante de ce duo Pogacar-Del Toro, c'est plutôt la victoire de Del Toro à Barcelone, où je trouve que vraiment, là, on sent ce que tu disais, un Pogacar tellement heureux de lui filer la victoire, vraiment avec la banane, et on n'est que le deuxième jour du Tour de France. Hein. Donc, ça a un peu donné un peu le ton de ces 3 semaines, au final, cette victoire de Del Toro à Barcelone, offerte par son leader.
Est-ce que tu t'attendais à ça, Jérôme ? On parlait de ces 3 victoires qu'il ne va pas aller chercher, qu'il aurait peut-être pu avoir, même certainement, hein, celle de Del Toro, c'est sûr, celle d'Evenepoel, c'est sûr. Et l'autre, on se dit qu'il pouvait rattraper Carapaz. Ça t'étonne quand même qu'un champion du standing de Tadej Pogacar ne se batte pas jusqu'au bout pour des succès ?
Non, ça ne m'étonne pas parce que je ne crois pas que Tadej Pogacar court après les records. Il aurait pu aller chercher, comme vous l'avez dit, les 8 victoires sur ce tour. Lui, en fait, il veut jouer au vélo. Et pour jouer au vélo, pour jouer à n'importe quoi, il faut des copains. Et jusqu'à maintenant, il n'en avait pas. Alors là, il a Del Toro, ce n'est pas pour le battre au classement général, mais c'est voilà, bah, t'amènes ton copain sur le podium. Donc non, ça m'a pas surpris parce que c'est sa nature. Par contre, là où je te rejoins pas tout à fait, Maxime, c'est qu'autant ça m'a pas vraiment gêné qu'il attende et qu'il fasse le travail pour Del Toro à l'Alpe d'Huez. Par contre, la manière dont il a laissé gagner Del Toro le deuxième jour, ouais, j'ai pas trouvé sa classe, par contre, pour le coup, parce qu'il est en train de lui parler, il est en train de l'encourager. Tu vois les autres qui sont à bloc, Del Toro qui est presque à se péter la gueule parce qu'il se demande quand est-ce que Pogacar va passer, donc il se retourne pour regarder. Il est à deux doigts de se prendre une barrière. Mais après, je suis pas surpris par le fait que Tadej Pogacar ne veuille pas tout assommer. Et en fait, je sais pas ce qu'il peut faire, Tadej Pogacar, parce que s'il avait gagné 8 étapes, on aurait hurlé au scandale qu'il gagne tout
à l'ultra domination.
C'est le cannibale, c'est foutu. Et là, il ne fait pas ça, il en laisse aux autres, il aide ses coéquipiers et ça ne va quand même pas. Donc en fait, Tadej Pogacar, il ne peut rien faire, il sera forcément critiqué.
Oui, forcément. Oui. Quoi qu'il arrive, quand tu as un grand champion comme Tadej Pogacar, tu seras critiqué. Justement, on en parlait. On en parlait de cette victoire en haut du plateau de Solaison de Remco et Evenepoel qui a été offerte hein, par Tadej Pogacar. Je vous propose d'écouter le Belge qui revient sur son Tour de France, lui qui termine deuxième du classement général.
Oui, c'est pour ça que je suis venu. Hein. Je suis venu pour faire le podium et que ce soit la deuxième place ou la troisième place, ça on allait voir. Mais je pense que je suis le plus heureux avec les performances que j'ai mises dans les dernières deux semaines. Je savais que je voulais être sur mon meilleur niveau dès l'étape de Markstein. Donc voilà, je pense qu'à partir de ce moment-là, j'ai jamais eu de moment faible. Aujourd'hui, je me sentais hyper bien à nouveau. C'est clair que l'équipe de UAE, elle voulait défendre la troisième place de Del Toro. Ils ont réussi à ça. Mais bon, je pense que je fais encore un très beau final. Malheureusement, je tombe à 20 secondes de la victoire. Mais en général, très content avec mon tour. Et voilà, c'est pour ceci que je suis resté en dehors de la compétition pendant plus que deux mois. Donc très heureux et voilà.
Et là, je vais faire mon mea culpa parce que... À l'époque, quand ça s'appelait Grand Plateau encore, j'avais dit que je voulais plus voir Remco Evenepoel sur les grands tours parce qu'il me semblait beaucoup trop loin. Alors, trop loin de Tadej Pogacar, il y a encore, il termine assez loin. Loin encore de Jonas Vingegaard, je pense, même si ça s'est un peu rapproché. Mais je ne pensais pas qu'il était plus fort que des Paul Sexas, que des Isaac Del Toro, même que des Juan Ayuso. Pour le coup, il nous a fait tous mentir. Il le dit lui-même hein, dans certaines interviews qu'il répondait à ses détracteurs. Ça a été une immense surprise et une très, très bonne surprise, Jérôme, de le voir aussi performant en haute montagne et surtout de ne pas craquer. Alors, il a peut-être changé un petit peu d'état d'esprit, un petit peu moins offensif et il s'est contenté d'aller chercher, j'allais dire, juste, entre guillemets, un podium. Mais bon, c'est un très grand Remco et ça annonce que du bon pour l'avenir.
Oui, c'est un très grand Remco. Moi, je faisais partie des sceptiques aussi jusqu'à la dernière étape, enfin la veille de l'arrivée, l'étape de samedi. J'y croyais encore pas. Je me suis dit, les longues ascensions, la haute altitude, c'est vraiment là où Remco Evenepoel pêche un petit peu. Il m'a fait mentir. Je suis très content de m'être trompé là-dessus. On sent que c'est un nouveau Remco. Alors, il a changé d'équipe, il a changé deux fois d'entraîneur, sa préparation a été différente, il n'a pas couru pendant deux mois. C'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'en début de tour, des fois, il était un petit peu juste et moi, ça me confortait dans l'idée qu'il allait exploser à un moment donné. Mais en fait, ça lui a servi à monter en puissance au fur et à mesure du tour et à terminer le tour très, très fort, encore sur la dernière étape d'hier sur les Champs-Élysées. Moi, le seul regret que j'ai par rapport à Remco Evenepoel, c'est de ne pas l'avoir vu face à Jonas Vingegaard, justement. Ouais. Je ne suis pas sûr que Vingegaard avait autant de marge que ça sur le Remco qu'on a vu cette année. Alors, il ne revient pas dans le jeu pour battre Tadej Pogacar. Tant que Tadej Pogacar sera à ce niveau-là, tu l'as dit, Johan, il est encore à quasiment 7 minutes
de
Pogacar au général. Et ouais, Remco, quand il monte sur la deuxième marche du podium provisoire après le chrono ou juste avant, il le dit d'ailleurs. Il dit, moi, je ne vise pas du tout la victoire. Je vais défendre ma deuxième place. Lui, c'est vraiment le Andy Murray du vélo, quoi. Je le dis à chaque fois, mais il est ça, hyper ouais. bon. Il va certainement jamais gagner un grand tour, alors que s'il était tombé dans une autre génération, il aurait peut-être déjà tous les grands tours à son palmarès et plusieurs Tours de France. Il a la malchance, entre guillemets, de faire partie de cette génération avec Vingegaard et Pogacar, où lui, il aura fait toute sa carrière en plein dans cette génération-là, alors qu'un Paul Sexas beaucoup plus jeune, par exemple, on sait que Vingegaard et Pogacar vont pas durer encore 10 ans, et Paul Sexas, lui, sera au top de sa forme à ce moment-là.
Il a donc une seule Vuelta, hein, Remco et Evenepoel. Est-ce qu'on y croit quand même pour un grand tour? Peut-être pas pour le Tour de France, tant qu'il y aura Tadej Pogacar, mais pour Giro, un Giro, une Vuelta, il peut encore en gagner.
Il ferait bien d'aller au Giro l'an prochain, parce qu'il a besoin justement de valider un petit peu ce talent par quelques lignes sur le palmarès. Parce qu'en fait, on était tous sceptiques, parce qu'on l'a vu 30 mille fois le film. Bien Remco sûr. Qui écrase le chrono, ah peut-être qu'il va jouer la gagne, et deux jours après Remco qui explose en montagne. Oui. Et souvent il explose fort et tôt dans les étapes, dans les cols, et on sent que derrière c'est parti pour une journée galère où il prend 10 minutes dans la vue.
Le lendemain il abandonne.
Et là aujourd'hui, cette année, c'était pas le cas. Et moi aussi, jusqu'au dernier jour, j'ai douté. Et je dois dire que je suis assez admiratif de ce Remco-là. Et je le félicite de m'avoir surpris, parce qu'il a vraiment plus que fait s'accrocher. Enfin, il s'est plus qu'accroché. Il a vraiment tenu un petit peu tenu la promesse de vous allez voir ce que vous allez voir.
Exactement pareil. Hein. Moi, il m'a ébloui avec un truc quand même. Cette étape de l'Alpe d'Huez via Sarenne, qu'il est à deux doigts d'aller gagner en plus. Et c'est sa première victoire en montagne sur le Tour de France quand il bat Pogacar, où il lui laisse la victoire du côté du plateau de Solaison. Donc oui, franchement, éblouissant Evenepoel sur ce Tour de France.
Moi, si je veux être un petit peu pointilleux, est-ce qu'il y a un véritable progrès, je te pose la question Jérôme, entre le Remco 2024 qui fait 3e du Tour de France, il finit à 9-18, et ce Remco-là en 2026 qui termine à 6 minutes et 26 secondes, mais c'est un écart, j'ai envie de dire, un petit peu tronqué. C'est tronqué par l'avant-dernière étape où Tadej Pogacar ne va pas chercher la victoire et préfère perdre du temps pour rester avec Isaac Del Toro. Pardon. C'est tronqué aussi sur le plateau de Solaison où Pogacar semble vraiment beaucoup plus fort. Est-ce qu'il y a un véritable progrès de Remco Evenepoel par rapport au Tour de France 2024 pour toi quand même?
Eh ben, pour moi, il y a un énorme progrès. Ça, les deux podiums n'ont rien à voir. Quand il fait troisième, c'était troisième à l'arrache, j'ai envie de dire,
oui,
en subissant.
Complètement, oui.
Il s'accrochait, il était limite, il pétait, voilà, vraiment à l'arrache, comme on dit. Alors que là, cette année, il a été, jusqu'à la dernière étape, la dernière arrivée à l'Alpe d'Huez, il a été acteur du Tour. Alors oui, c'est pas lui qui a lancé des grandes offensives, etc. Mais je pense que même lui s'est surpris. Et même lui, d'ailleurs sur cette étape-là, je pense, fait une erreur en n'attaquant pas d'un peu plus loin. Il n'avait rien à perdre finalement. S'il attaque un tout petit peu plus tôt, il va peut-être gagner l'étape. Et ça, on ne l'a pas vu quand il fait troisième. Quand il fait troisième, il a fait que subir. Là, il a pesé quand même en dernière semaine. On sentait qu'il avait les moyens. Alors, dès Solaison, en fait, parce que Solaison, Pogacar fait le rythme, mais on voit bien qu'il se cale sur celui de Del Toro. Mais Tadej Pogacar, Remco Evenepoel, ouais, pardon, il fumait la pipe au plateau de Solaison. Et dans sa reine, nous, on s'est un peu périph, c'est un peu énervé en disant « Oh là là, Tadej Pogacar, Del Toro, ils sont en train de discuter, c'est n'importe quoi, Paul Sexas est à bloc. » Mais Remco, il pouvait faire la conversation avec eux aussi, s'il voulait. Il se baladait vraiment. Et là, cette année, il avait vraiment les moyens de peser sur la course, ce qui n'était pas le cas quand il fait troisième.
Est-ce qu'il aurait pu faire mieux, du coup, Remco? On parlait du plateau de Solaison, on parlait aussi de l'avant-dernière étape où peut-être qu'il attaque trop tard pour rejoindre Richard Carapaz. Est-ce qu'il, par exemple, sur le plateau de Solaison, on n'aurait pas aimé le voir attaquer Isaac Del Toro?
Ouais, alors faire mieux, c'est-à-dire qu'il finit quand même à pas loin de... Il est à 6 minutes, je crois. Donc bon, même faire mieux, il y a quand même... Il y a une marge qui fait que en fait, il aurait fait mieux pour les stats, mais oui. Au final, ça n'aurait rien changé au déroulé de la course. Il avait quand même une vraie marge sur la suite, sur le troisième, sur Del Toro, et un monde d'écart avec Pogacar. Mais moi, ce que je trouve dans les progrès qu'a pu faire Remco, et ça paraît complètement fou de le dire, mais il y a un énorme progrès en contre-la-montre. Le mec était déjà au-dessus de tout le monde, et là, maintenant, il a trois classes d'avance. Ce contre-la-montre, c'était une masterclass. Oui. Enfin, même les spécialistes, les Ghana, tout ça, ne touchent plus à Evenepoel. Il est imbattable sur cet exercice, et j'ai trouvé ça magnifique.
Bah, le seul qui touchote, c'est Tadej Pogacar, parce que c'est un Tour de France, parce que c'est un chrono un petit peu en montée. On se dit quand même que, justement, Maxime le disait tout à l'heure, peut-être qu'on aura des chronos un petit peu plus longs sur les prochains Tours de France. Est-ce que ça peut vraiment changer la donne? Est-ce qu'un Remco Evenepoel à ce niveau-là, Jérôme, il peut installer le doute dans la tête Déjà, Jonas Vingegaard, ça, je pense que oui, mais dans la tête d'un Tadej Pogacar, s'il y a vraiment un long chrono plat, sur, je sais pas, 40-50 bornes, est-ce qu'il est capable de prendre 2 minutes sur Tadej Pogacar?
Bah, j'aimerais te répondre oui. J'aimerais que ça soit le cas, mais j'y crois pas, parce que Tadej Pogacar, il est toujours très bon sur les chronos dans les grands tours, et même si Remco Evenepoel venait à lui prendre 2 minutes sur un chrono très très long, ben vous l'avez dit, sur ce tour-là, il termine à 6 minutes. Donc il a encore vraiment de la marge, Tadej Pogacar. Mais c'est peut-être un des moyens pour le suspense du tour, ou en tout cas un faux suspense, je sais pas, mais de relancer un petit peu le suspense en mettant des chronos très longs. Et ça obligerait les grimpeurs qui sont moins bons rouleurs à attaquer peut-être de plus loin, à moins regarder un peu le capteur de puissance, à prendre un petit peu plus de risques. Parce que si tu as un chrono de 40 kills, en imaginant que Pogacar prenne 1 minute 30, ça veut dire qu'un Lenny Martinez ou un Del Toro prend peut-être 3 ou 4 minutes, ben ou même Jonas Vingegaard prend 2 minutes, ben tu es bien obligé d'attaquer. Tu es bien obligé d'attaquer, pas forcément pour gagner le tour, mais pour reprendre un Remco Evenepoel qui sera en jaune après le chrono, par exemple. Et ça pourrait remettre un peu de suspense à la course,
ouais. À la condition de mettre ce chrono plutôt en début de Tour de France avant les deux massifs.
Ou alors de mettre ces chronos, voilà. Ouais. Non, au début,
c'est, chronos à la fin. Oui. Ouais, c'est possible aussi. En tout cas, on verra comment l'organisation va gérer
pour la question de ces chronos, d'ailleurs, Christian Prudhomme dit que le nombre de chronos ne va pas changer, c'est leur distance qui va changer. Donc, on va se diriger quand même vers un chrono individuel ou deux, si on compte le par équipe, mais plus long.
Les chronos de junior, c'est bien ça. Non, mais sans déconner, chrono par équipe qui fait 20 bornes individuel, 26 kills, c'est ce que tu fais. Mais non, c'est ce que tu fais en junior. Oui. Alors je veux bien que ça peut tuer le suspense, mais quand même, si tu fais chez les pros des distances que tu faisais chez les juniors, c'est quand même très bizarre, je trouve.
Ouais, mais c'est pour éviter quelques écarts. Bon, forcément, moi, je suis d'avis.
Bah, moi, j'aurais voulu un Alpe d'Huez de 6 km. J'aurais pris un moins gros carton aussi, tu vois.
Ah oui, bien sûr.
6 km. Bah, voilà, si c'est limiter les écarts, moi, je grimpais moins bien. Fallait raccourcir les bosses, tu vois.
T'aurais pu gagner le tour, je suis sûr.
Oh là là.
On vient de parler du podium. Donc, Tadej Pogacar, Remco Evenepoel, Isaac Del Toro. Et bah 4 et 5, on a deux Français. On a deux Français dans le top 5. C'était plus arrivé depuis 2014. On avait même deux Français sur le podium. Donc Paul Sexas 4e, Lenny Martinez 5e. C'est juste dingue. C'est un immense exploit, Jérôme, d'avoir Paul et Lenny qui font comme ça top 5. C'est une petite surprise. Alors peut-être plus pour l'un que pour l'autre, mais on est ravis. Le cyclisme français brille sur ce Tour de France.
Bah, le cyclisme français brille. Moi, j'aurais pas mis une pièce sur deux Français dans le top 5. Hein, et pour moi, la grosse surprise, c'est Lenny. Moi, j'ai deux surprises dans ce top 10. C'est Remco Evenepoel, on vient d'en parler, parce que je pensais qu'il allait sauter, et Lenny Martinez. Lenny Martinez, qui soit autour de la 10e place, ça m'aurait pas surpris. Mais qu'il soit 5e et 5e de la manière dont il a couru. Déjà en solo, il avait quasiment pas d'équipe. Des fois sur des étapes à 100 kills de l'arrivée, il était déjà tout seul. C'est lui qui allait chercher ses bidons, sa glace, etc. Donc ça, c'est des efforts qui coûtent à la fin. On pourra toujours débattre sur sa stratégie dans la première étape qui arrivait à l'Alpe d'Huez, etc. Mais au final, il a quand même réussi à suivre un petit peu Pogacar sur cette étape-là. Et puis surtout, l'étape de samedi, il est dans les 5 meilleurs grimpeurs de la journée ce jour-là. Clairement. Il est plus fort que Paul Sexas, par exemple. Il finit bien mieux. Et puis, ben Lenny, moi, je suis content qu'il ait fait un classement général. Je ne sais pas si ça lui a plu, et ça, c'est lui qui décidera. En tout cas, il a montré qu'il avait les moyens de faire le top 5, éventuellement un podium suivant le parcours. Mais au moins, il s'est donné les moyens de savoir si ça lui plaît. Parce que faire un classement général, et Paul Sexas l'a un peu dit dans des interviews, il faut être tous les jours concentré. C'est usant, c'est pas forcément fun parce que tu vas à contre-courant de ta personnalité. Tu ne dois pas attaquer, tu dois attendre le maximum, etc. Et Lenny, ce qu'il aime, c'est lever les bras. Ce qu'il aime, c'est attaquer, lui. Donc, est-ce que vraiment ça lui aura plu de faire un classement général ? Ben, on verra. Mais en tout cas, il a prouvé à 23 ans seulement, parce qu'on l'oublie un peu, parce que Paul Sexas a 19 ans. Mais il a que 23 ans, Lenny. Et faire un top 5 avec la manière, chapeau à lui.
Et tiens, on va l'écouter, Lenny Martinez, sur le bilan de son tour et ce top 5 qu'il est allé chercher avec la manière. Lenny Martinez.
C'est un tour au-delà de mes attentes. J'aurais jamais pensé faire top 5 sur un Tour de France. Surtout aussi presque gagner une étape, c'est super et voilà, je suis très content de ça. Moi je regardais le tour à la télé à l'époque et pour moi c'était impossible, c'est un niveau tellement élevé de faire un top 5 sur un Tour de France, donc c'est quelque chose que j'aurais jamais pensé faire dans ma carrière.
Ouais, on savait pas ce qu'il allait jouer Lenny Martinez avant le Tour de France, étape, maillot à poids, finalement il s'est dit je vais tenter le classement général. Et maintenant on a envie de le voir sur les classements généraux tout le temps, Lenny Martinez, François.
Bah, lui non plus ne savait pas trop ce qu'il allait faire, hein, parce qu'au final il faut pas oublier que jusqu'à le vendredi, donc deux jours avant l'arrivée, il est dixième plutôt, donc c'est comme ça qu'il arrive à se faufiler dans cette échappée qui lui permet de remonter au classement. Donc en fait, il a joué le classement général sans se faire repérer des gens qui jouent le classement général, ce qui est finalement une bonne manière de faire les choses, parce qu'il n'a pas eu toute la difficulté de gestion qu'a pu avoir un Paul Sexas, qui a dû sécuriser sa quatrième place, essayer de jouer. Et
il n'aurait pas pu, vu que son équipe ne l'aidait pas en plus.
Donc c'était le coup parfait pour Lenny Martinez, il s'est fait oublier, il s'est glissé dans cette échappée, il a presque gagné cette étape, il a dû passer un bon tour, je pense.
Ouais, il a un très bon tour pour Lenny Martinez. On en parlait un petit peu sur la radio digitale, 100% route, Maxime. Ce Lenny Martinez-là, tu lui enlèves les 7 coureurs qui composaient son équipe, c'est le même Tour de France pour lui. C'est dingue quand même de faire 5e sans équipe.
On disait c'est peut-être le premier coureur depuis les années 30 qui courait en individuel sur le Tour de France. Sincèrement, il a été bluffant de maturité et d'abnégation dans son Tour de France, je trouve. Il a parfaitement géré sa course, de A à Z, sauf l'étape de Alpe d'Huez. Et je trouve que malheureusement, pour le grand public, c'est surtout une image qui risque de rester pour lui, et ça, c'est assez dommageable. Mais sinon, sur tout le reste, le bilan est super positif pour Lenny Martinez. Par contre, quelle déception de l'équipe Bahreïn, qui est quand même une équipe, franchement, avec une composition, avec du Caruso, avec du Tibéri. Enfin, franchement, il aurait pu avoir de l'aide. Il n'a rien eu. Et d'ailleurs, il y a un team radio hier pendant l'étape.
Incroyable, c'est
incroyable. Où on dit à Lenny Martinez, ah bah, ils t'ont aidé pendant tout le Tour de France, maintenant c'est à toi de rendre l'appareil. Mais d'où ils l'ont aidé? Non, mais ça. J'ai revu ça tout à l'heure, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc?
Et ça arrive en tout début d'étape. Vraiment, l'étape vient de se lancer, c'est le premier message radio qu'on a.
On est à quoi, 80 km de l'arrivée. On vient de franchir la première fois le tunnel qui se trouve juste en dessous des Tuileries. Et je vois ça, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? L'équipe Bahreïn a été inexistante s'il n'y avait pas Lenny Martinez.
Est-ce que ça peut changer quelque chose pour la Bahreïn victorieuse, Jérôme, d'avoir ce Lenny Martinez-là? Parce que là, on parle du Tour de France, le classement général du Tour de France, mais c'est quelqu'un qui fait top 5 de tous les classements généraux sur toute la saison. C'est incroyable ce qu'il fait, Lenny Martinez.
Bah oui, c'est ça, c'est pas que le Tour de France. Alors là, peut-être qu'il va se révéler aux yeux du grand public sur le classement général du Tour de France, mais depuis le début de l'année, il fait une année qui est complètement folle au niveau World Tour, Lenny Martinez. Donc sur les courses par étapes d'une semaine, il avait déjà prouvé des choses. On savait qu'il était capable de gagner une étape, éventuellement un classement général. L'année dernière, il perd le Tour de Romandie sur le dernier chrono du dernier jour. Donc ça, on n'avait pas de doute. Maintenant, sur les courses de 3 semaines, bah, il ne l'avait encore jamais montré. Là, il nous l'a montré. Par contre, le problème que va avoir Lenny Martinez, bah, vous l'avez dit un peu, c'est son équipe.
Ah oui,
et là,
sûr.
Bahreïn, ils ont quand même normalement un gros budget. Va falloir aller recruter. Si vraiment ils veulent que Lenny soit un jour sur le podium d'un grand tour, voire qu'il en gagne un, va falloir qu'il ait une autre équipe que ça. Parce que peut-être même dû, allez, je ne vais pas dire du top 10, que Jordan Zegat fait 10e et son équipe n'était pas non plus, mais Total Energy, c'est pas la Bahreïn Victorious. Oui. Mais du top 5, du top 6, là, c'est vraiment l'équipe la plus faible. Donc, vous l'avez dit, il a fait son top 5 tout seul, Lenny, et ça va être un gros sujet, je pense, pour Lenny, parce qu'il a quand même quitté Groupama FDJ, pas que pour l'argent, comme on a pu lire à droite à gauche, aussi parce qu'il savait que cette équipe allait le faire progresser et que le collectif était plus fort. Bah, sur ce tour-là, on n'a pas vu un collectif plus fort que d'autres formations.
On rappelle que Lenny Martinez est en fin de contrat l'année prochaine, fin 2027, à la Bahreïn Victorious. Donc il va y avoir aussi une question mercato qui risque d'arriver assez incessamment sous peu pour Lenny.
Lenny Martinez, 5e. Paul Sexas, 4e du Tour de France à seulement 19 ans. On va le rappeler tous les jours. On va l'écouter, Paul Sexas, coureur de la Decathlon CMA CGM, sur ce qu'il a pu apprendre sur ces 3 semaines. C'était son premier grand tour, premier Tour de France. Paul Sexas.
Déjà, premièrement, que j'ai réussi à les tenir. Je pense qu'on a tout tenté pour essayer de se battre pour le podium. Et ça, c'est quand même une très belle chose quand même. Si on me l'avait dit au début du tour, ce serait forcément, c'était magique, même si j'ai toujours des hautes ambitions. Mais voilà, on a tout mis en place. L'équipe a été solide au rendez-vous et a tout fait pour me placer dans les meilleures positions. Et maintenant, les cartes ont été jouées. Et voilà, des fois on gagne, des fois on perd, mais on apprend toujours. Et là, j'ai beaucoup appris et je suis content de cette expérience. Maintenant, ça va m'apporter beaucoup pour la suite.
Paul Sexas, 4e, donc dans le top 5. C'était un objectif qu'on voulait le voir atteindre parce qu'on savait, le potentiel, on connaît le talent du garçon. Jérôme, ça te surprend quand même qu'il termine quatrième, en positif ou en négatif, tu t'attendais à mieux ou à moins bien pour Paul Sexas?
À rien pour Paul Sexas, enfin à rien. On en a beaucoup parlé nous dans le direct, mais moi le premier objectif c'était qu'il termine le tour, en fait, qu'il fasse trois semaines et qu'il puisse peser sur la course en troisième semaine. Après, tu l'as dit, avec les capacités qu'il a, top 10, top 5, c'était largement faisable. Là où par contre il m'a bluffé, parce qu'il nous bluffe tout le temps, c'est qu'il a pas eu un jour sans. Et pour moi, le gros enseignement du Tour de France de Paul Sexas, c'est même pas sa quatrième place, c'est qu'il a jamais explosé. Il n'y a pas un jour, même la dernière arrivée à l'Alpe d'Huez, il perd du temps, mais il n'a pas explosé. Et encore, il perd du temps parce qu'il a voulu tenter avec son équipe de décrocher Del Toro. Donc, c'est incroyable, à 19 ans, voilà, il y a deux ans, il faisait des courses de 120 kilos en junior, même pas, il y a un an et demi. Et un an et demi plus tard, il joue le podium sur la dernière étape de montagne du Tour de France, sans jamais exploser. Et même Del Toro, j'ai l'impression que sur les longs cols, il était peut-être un petit temps en dessous de Paul Sexas. Donc voilà, là, il a simplement confirmé ce qu'on pensait de lui, Paul Sexas. Et là, on a vraiment la première pierre d'un potentiel podium dans les années à venir, voire une victoire.
Il n'a aucun regret à avoir, Paul Sexas, sur ce premier Tour de France. Il a donné ce qu'il pouvait donner. On parlait peut-être avant l'avant-dernière étape, justement, du fait qu'il tentait peut-être pas assez, qu'il jouait un petit peu dans un rôle défensif, peut-être trop timide. Finalement, il a tenté, il a perdu du temps, il n'a aucun regret à avoir. C'est une magnifique quatrième place.
Il ne peut pas avoir des regrets dans la mesure où c'est le plus jeune de loin à participer au Tour de France. Donc en fait, il est déjà dans un territoire qui n'est exploré par personne. Après, moi vraiment, si, pour le coup, je ne suis pas du tout surpris du Tour de France de Paul Sexas. Je ne le voyais pas plus haut et pas plus bas.
Oui.
Parce que, et je voyais exactement le déroulé comme ça. Alors c'est facile à dire après, hein, mais c'est-à-dire que Oui, il a tenu, oui, il n'a jamais explosé. Non, à aucun moment on s'est dit qu'il allait pouvoir faire exploser les autres non plus. Donc il a suivi, il a appris.
Heureusement.
Oui, heureusement. Oui. Et c'est pour ça que je...
Moi, j'ai cru qu'il pouvait terminer devant Del Toro à un moment.
Ouais, mais même, enfin, tu vois, il finit quand même à plus de 2 minutes de Del Toro. Ouais,
il finit hyper sur l'avant-dernière.
Il finit à 5:30 d'Evenpool, il finit à 12 de Poggi. Donc il y a quand même des écarts qui sont, enfin, ça s'est pas joué à peu. Mais au moins il a appris. Alors c'est pour ça que moi je faisais partie de ceux qui auraient préféré qu'il apprenne sur un autre grand tour avant de se mesurer.
Tu restes sur cet avis-là?
Ouais, je pense que j'aurais peut-être préféré le voir jouer un peu justement peut-être l'attaque, tout ça sur une Vuelta avant de le voir débarquer sur le tour. Maintenant, c'était comme ça, c'était sympa. Mais tu vois, le grand public à qui on a beaucoup parlé de Sexas, je ne suis pas sûr qu'il l'ait beaucoup vu, sauf ceux qui étaient au bord des routes, qui criaient. Mais à la télévision, finalement, il a été pas transparent, mais il a suivi le paquet. C'est encore une fois une performance exceptionnelle à l'âge qu'il a. Il ne fallait pas attendre plus que ça. Mais voilà, comme son nom dépasse maintenant le seul cercle des amateurs de cyclisme, j'espère que les gens ne vont pas être déçus.
Paul Sexas avait deux objectifs avant d'arriver sur le Tour de France. Faire le meilleur classement général possible. Et je pense sincèrement que quatrième était vraiment le meilleur classement général possible qu'il pouvait faire, et apprendre. Et je pense que ces trois semaines de Tour de France ont été une formation accélérée pour Paul Sexas. On rappelle aussi, information qu'on a appris hier, qu'il y a eu une chute juste avant le départ à Barcelone et un petit rhume dans la première semaine. Est-ce que ça a pu impacter sa forme en troisième semaine? On ne le saura jamais, mais on peut imaginer quand même. Mais en tout cas, il a eu vraiment une formation accélérée. Je pense que l'apprentissage, ce qui s'est passé pendant ces trois semaines, vont le marquer pour la suite de sa carrière et vont lui permettre de grandir encore et de franchir les étapes encore petit à petit.
En fait, Jérôme, le Tour de France de Paul Sexas, c'est ce à quoi on s'attendait. C'est presque le Tour de France des autres qui surperforme. Il termine quatrième, mais on n'attendait pas Remco. On pensait que Remco allait craquer, donc on pensait que Remco allait terminer derrière Sexas. On ne pensait pas qu'Isaac Del Toro allait être accompagné de telle sorte par Tadej Pogacar. Finalement, il est à son niveau, Paul Sexas. Son niveau à 19 ans, c'est ce qu'il a fait sur ce Tour de France 2026.
Bien sûr, je pense que en fait la chute de Vingegaard change complètement le Tour de
Totalement.
France.
Totalement.
Ah, elle change tout. Ouais.
Parce que il n'aurait pas battu Tadej Pogacar, mais la course aurait été bien différente. Et je pense que Del Toro aurait dû à un moment donné se sacrifier pour Tadej Pogacar et rouler parce que voilà, on a vu son équipe malade, etc. Il aurait dû rouler et il aurait certainement explosé. Lipovitz aussi, lui, c'est quelqu'un qui est pas spectaculaire, mais qui est toujours là. Donc on aurait eu vraiment une course beaucoup plus plus offensif dans les montées, parce que Vingegaard, il allait attaquer, même s'il n'allait pas forcément décrocher tout le monde, il allait tenter des choses. Et ça, voilà, ça a changé le scénario de la course. Mais pour Paul, finalement, quatrième, cinquième, là, c'était sa place. Peu importe, d'ailleurs, je pense qu'on aurait eu d'autres surprises si Vingegaard avait été là. Ben là, peut-être qu'un Evenepoel ou un Del Toro aurait sauté, mais Paul serait resté à peu près à la même place. Paul, je pense qu'il est déçu de faire quatrième, oui, par rapport à Del Toro. Parce qu'il, oui, se dit, Del Toro, je ne suis pas moins bon que Del Toro, je suis plus fort que Del Toro. Donc, ce n'est pas la place, vraiment, c'est de se faire battre par Del Toro. Et il se dit, purée, si Del Toro avait été dans une autre équipe, mais je l'aurais mangé tous les jours, Del Toro. Donc, c'est ça. Moi, j'aime bien cet état d'esprit-là en disant, bah voilà, mon tour, il est réussi. Bah, dommage pour la troisième place, mais ce n'est pas vraiment la troisième place. C'est que le mec devant lui n'est pas plus fort. Il n'a jamais dit, ah, je suis déçu de ne pas avoir terminé deuxième. Il a compris qu'Evenepoel était vraiment au-dessus de lui. Mais ce n'est pas le cas pour Del Toro.
Est-ce que son équipe, la Decathlon CMA-CGM, vous a surpris, messieurs? On l'a vu surtout en dernière semaine, avec énormément de coureurs qui étaient au niveau. Je pense à cette avant-dernière étape, la plus difficile, une des plus difficiles de l'histoire du Tour. Ils sont quatre à terminer dans le top 15 avec Ricky Tello qui est là. Il me semble qu'il y a Tige Benoît également. Et il y a Nicolas Prudhomme, évidemment, qui a été le dernier équipier à chaque fois. Est-ce qu'elle vous a surpris, cette équipe, à être aussi forte, finalement?
Alors, Hule, Prudhomme, ouais, Benoît, tout ça, c'était, je les ai trouvés admirables. Ricci Tello, je crois, le début de tour est vraiment pas fou, mais je crois qu'il était touché.
Il est malade.
Et j'aurais bien aimé voir ce qui se serait passé s'il n'avait pas été malade en début de tour pour les Pyrénées, parce que vraiment, il était transparent, voire un peu boulé.
Ah oui,
mais oui, l'équipe, elle était au niveau. Elle était au niveau pour entourer son leader, pour le protéger dans les moments un peu délicats à gérer. Elle était aussi au niveau dans la gestion de la folie Sexas aussi. Non, j'ai trouvé, franchement, c'est un. Et puis en plus, ils prennent une étape avec Olaf Koy qui vient. Donc non, c'est un tour très réussi pour Decathlon CMA-CGM.
Oui, rien acheté de ce qu'a fait la Decathlon CMA-CGM, Jérôme.
Non, il n'y a rien acheté. En plus, il y avait des interrogations au départ de diviser l'équipe en deux, un peu avec Koy. Bah, comme vient de le dire François, c'est pari réussi parce qu'ils ont gagné une étape, parce que Koy, Boll, Dan Hule qui a fait un tour incroyable, bah, ils ont quand même pu aider Paul sur le placement dans la plaine, le placement au pied des cols. Non, c'est vraiment parfait. D'ailleurs, sur l'étape de vendredi où les coureurs allaient chercher les 21 lacets, là, dans le col d'Ornon avant, c'est l'équipe la mieux représentée. Alors, dans le groupe maillot jaune, ils sont à égalité avec UAE. Il y a 3 UAE, il y a 3 Décathlon, mais Décathlon en ont 2 devant. Donc, en fait, c'était l'équipe, à l'avant-dernière étape de montagne, c'était l'équipe la mieux représentée, finalement l'équipe la plus forte. Et ils ont très bien couru, d'ailleurs, ce jour-là, parce que Prudhomme fait le pied, retombe sur Benoît accélère, retombe sur Ricci Tello, etc. C'était tout vraiment bien fait. Donc là, il n'y a rien à dire là-dessus. Ils ont fait vraiment le tour qu'ils devaient faire. Et je pense même que certains... Alors, Tige Benoît, moi, il m'a surpris parce qu'il revient de loin. Son début de saison était très compliqué. Je ne pensais pas qu'il allait être si fort en montagne. Et je pense même que Paul, il permet à certains de ses coéquipiers de surperformer, notamment Nicolas Prudhomme, par exemple. On sait que c'est un super équipier. Il a gagné, il a fait une super saison l'année dernière. Il n'y a pas de débat là-dessus. Par contre, quand il s'écarte à l'Alpe d'Huez, il a 5 mecs dans la roue, hein, Nico Prudhomme. Sur le dernier triptyque alpestre, il est peut-être dans les 10 meilleurs grimpeurs du Tour, Prudhomme. Et ça, je pense qu'il surperforme parce qu'il y a un leader de la trempe de Paul Sexas qui est capable de se battre pour le podium et ça tire toute l'équipe vers le haut.
Et pour moi, la meilleure preuve de ça, en fait, c'est pas forcément sur une étape de montagne, c'est sur ce qui s'est passé hier à Montmartre. L'équipe Décathlon a été impressionnante hier en ramenant à chaque fois pour bosser pour Olaf Koy avec un Paul Sexas qui mène des relais de zinzin en direction des Champs-Élysées. Ils ont fait une étape admirable hier et ils ont conclu ce Tour de France en fait comme ils l'avaient commencé, collectivement parfait.
Ouais, lui aussi, il est inspiré. J'ai l'impression qu'il est inspiré par Tadej Pogacar dans ce qu'il fait hier. Maxime a raison de le préciser, Jérôme. Ce relais qu'il donne, c'est lui qui revient après la deuxième ascension de la butte Montmartre. C'est lui qui ramène le peloton. Et j'ai le souvenir du chrono par équipe sur le Dauphiné avec Dan Hule qui lui dit « Calme-toi, tu prends des relais trop forts ». C'est vrai qu'il prend des relais, mais qui sont monstrueux, Paul Sexas. Il a montré aussi sur cette dernière étape qu'il était encore quand même en grande forme.
Bien sûr, il est en grande forme. Alors, des fois, d'être aussi fort que lui, tu as parlé du chrono par équipe au Tour d'Auvergne-Rhône-Alpes, bah, en fait, c'est presque un inconvénient pour une équipe quand tu as un mec trop fort, parce qu'il va mettre dans le rouge les autres. Mais oui, lui, il a le même état d'esprit que Tadej Pogacar. De toute façon, Paul Sexas, il a 19 ans, donc il a été élevé, il a regardé les courses en voyant des Tadej Pogacar courir, des Mathieu Van Der Poel attaquer à 60 km de l'arrivée, 70 km de l'arrivée. Lui, il a été élevé avec ça, il a été biberonné à la tactique Pogacar, Van Der Poel, Evenepoel aussi qui attaquait de loin. Donc lui, c'est sa manière de courir à lui aussi. Et on l'a vu à Liège-Bastogne-Liège par exemple. Lui, il aime bien aussi aller au combat. Et c'est pour ça que Tadej Pogacar l'aime bien, parce qu'il a un copain en plus pour jouer bien avec sûr. Le même état d'esprit. Et ça c'est très bien. Et on a la chance qu'il soit français et qu'il soit bon partout, parce qu'il peut être très bon au chrono, descente, dans l'école, etc. Et nous, ben voilà, on a un peu, on regardait un peu avec des grands yeux Tadej Pogacar en se disant, ben, dommage qu'il soit pas français. On va pas gagner un Tour de France tout de suite, mais finalement on en a peut-être un sous la main.
La suite maintenant pour Paul Sexas, c'est évidemment la question qui se pose après ce Tour de France. Comment gérer l'après-tour? On va te poser la question, Jérôme, tu vas tâcher de nous éclairer.
Le peloton RMC, le briefing de Jérôme.
Mais avant de t'écouter, mon GG, on va entendre Julien Jurdi, directeur sportif de Decathlon CMA CGM, qui nous parle du prochain rendez-vous de Paul Sexas.
Au Canada au mois de septembre, voilà. Donc non, après voilà, on va d'abord récupérer. Je pense que pour Paul c'est vraiment important de bien récupérer après l'effervescence du Tour. On connaît la caisse de résonance du Tour de France, elle est impressionnante, elle peut vous manger, donc forcément c'est important que Paul se pose tranquillement durant les prochains jours, puis après on verra avec le staff tranquillement où est la reprise et qu'est-ce qu'on va faire d'ici les prochaines semaines.
Alors Jérôme, reprise au Canada pour Paul Sexas, lieu où seront les prochains championnats du monde. Que va-t-il faire? Que doit-il faire après ce Tour de France, Jérôme?
Bah, on l'a dit, hein, pour nous, la fin des trois semaines de spectacle hier. Mais pour les coureurs et Paul Sexas, c'est déjà presque le début de la préparation de l'objectif majeur, enfin le deuxième objectif majeur de sa saison, qui est les championnats du monde. Et souvent, on peut penser qu'après le Tour, bah, il faut profiter de la forme pour continuer à courir et à servir de la forme, de la force qu'on a acquis sur le Tour pour essayer d'aller gagner des courses. Mais en fait, Julien Jurdi l'a dit, c'est un peu tout l'inverse. Ce qu'il faut faire, c'est essayer de récupérer. Et d'ailleurs, les meilleurs du monde, hein, comme Tadej Pogacar ces dernières saisons, font tous la même chose. C'est pas forcément une coupure totale sur la semaine qui vient. Ils vont aller tourner les jambes un petit peu comme ils veulent, mais la semaine prochaine, certainement pour Paul, il y aura une coupure de vélo, une mini coupure, on appelle ça, de 3 à 5 jours, où vraiment il va peut-être pas toucher au vélo, il va peut-être aller marcher, se balader, ou en tout cas passer du temps avec ses proches et essayer de sortir, Julien Jurdi l'a dit un peu, mais de la lessiveuse du Tour. Hein. Le Tour, quand tu prends le départ le premier jour, tu rentres dans la machine à laver et t'en ressors uniquement sur les Champs-Élysées. Donc ça fait du bien ensuite d'être un peu isolé et au calme, parce que la fatigue, elle est pas seulement physique, elle est surtout mentale. Quand tu termines le Tour, t'es rincé mentalement. Sur le plan physiologique, les bases, elles sont là. Donc les trois semaines de Tour, ça te permet de construire une endurance énorme. Tu arrives à enchaîner des efforts que tu ne pourrais pas simuler à l'entraînement, par exemple. Mais ce qui se perd sur un grand Tour comme le Tour de France, c'est le punch. En fin de course, les coureurs, c'est vraiment des diesels. Ils ont de la force, mais ils perdent la capacité à accélérer, à répéter les efforts. Et c'est d'ailleurs ce qu'on a vu, hein, un peu chez Paul Sexas. C'est que dans les longues ascensions type Galibier, quand UAE faisait un tempo énorme, il était bien. Mais dès qu'il y avait des changements de rythme ou des petites accélérations courtes, il avait du mal à changer de rythme, Paul Sexas. Donc après la petite période de récupération et avant les classiques canadiennes, bah, ça va être un bloc de travail qui sera moins axé sur l'endurance, mais plus sur les efforts courts, type PMA, explosivité, des efforts de 2, 3 jusqu'à 10 minutes pour retrouver le punch. Et il faudra bien sûr, pour Paul, on a parlé déjà du chrono, il va très certainement être sélectionné pour les championnats du monde chrono, donc il faudra aussi qu'il repasse par la case vélo de chrono pour préparer un petit peu ces championnats du monde. Et comme l'a dit Julien, il va faire sa rentrée sur le Grand Prix de Québec et Montréal, ça va être la dernière répétition générale avant les championnats du monde. C'est deux courses très exigeantes avec beaucoup de relances, c'est parfait pour vérifier si le bloc de travail, un peu de PMA, d'explosivité, a porté ses fruits, parce qu'entre ces deux classiques canadiennes et les championnats du monde, on aura un tout petit temps éventuel pour essayer de réajuster un peu les curseurs si on voit que les sensations de Paul sont pas optimales. Parce que finalement, après un Tour de France, l'objectif, c'est pas de devenir plus fort, mais c'est surtout de pouvoir retrouver de la fraîcheur sans perdre les qualités que tu as acquises pendant les trois semaines de course. Et c'est souvent dans cet équilibre-là qui est difficile à trouver que se joue le championnat du monde.
On s'attend à un grand success pour cette fin d'année. François, Maxime ?
Alors moi j'ai beaucoup d'espoir pour le championnat du monde, je sais pas s'il peut vraiment jouer la gagne, mais ça va dépendre de beaucoup de paramètres. On se doute bien que Pogacar va vouloir faire le triplé, mais on commence à parler aussi d'un Pogacar sur la Vuelta, ce qui voudrait dire en termes de préparation ça va être un peu serré. Alors après oui, le parcours des championnats du monde c'est un parcours qui ressemble un peu à une classique flamande. Où tu vas avoir des espèces de... Ils vont passer 10 fois sur des côtes assez dures, assez courtes. Est-ce qu'il a, à 19 ans, de quoi... Alors, il aura peut-être 20 ans d'ici là.
Mais, peut-être, oui.
Est-ce qu'il a de quoi rivaliser avec les meilleurs, avec, je ne sais pas, des Van Der Poel et compagnie là-dessus, on verra. Mais un podium, il peut viser le podium et sur la course en ligne et sur le chrono, et ça serait magnifique.
Oui. En effet, je pense que c'est l'objectif, un podium à la fois sur la course en ligne et sur le chrono. Il y a aussi les championnats d'Europe qui vont arriver derrière, qui sont, si mes souvenirs sont bons, chez Pogacar, en Slovénie.
Tracé par lui.
Exactement, ouais, avec de la belle montagne, hein, il me semble. Donc ça peut aussi être un objectif intéressant. On rappelle que l'année dernière, il a fait médaille de bronze.
Oui, bah oui, c'est là où il avait un peu explosé, Paul Sexas. En tout cas, on attend beaucoup de choses de lui sur les prochains Tours de France, évidemment, mais aussi en cette fin de saison. C'est pas fini cette année 2026 pour Paul Sexas. On parlait des deux Français dans le top 5. On va évidemment saluer la performance de Jordan Jegat. Un nouveau top 10 pour lui, le deuxième d'affilée dans l'équipe Total Energy. Et ça fait du bien à cette équipe dont l'avenir est tracé en gros pointillés. Voilà, on va le dire
comme
ça.
Toujours incertain.
Compliqué, c'est très incertain l'avenir de la Total Energy. Trois Français dans le top 10, mais pas de victoire d'étape. On va écouter Michel Callot, le président de la fédération, qui est frustré quand même par ce manque de victoire d'étape sur cette édition 2026.
Non, c'est quand même frustrant de ne pas avoir de victoire d'étape, il faut le reconnaître, sur un Tour de France, surtout avec une génération qu'on voit arriver, qui s'affirme et qui... commence à s'installer au plus haut de la hiérarchie. On est par exemple troisième au classement mondial. On avait beaucoup reculé ces dernières années. Donc ça se traduit pas dans les victoires d'étape. Et moi j'en conviens, il y a une frustration autour de ça. Je la partage totalement.
Tu la partages aussi, Jérôme. On a trois Français dans le top 10, deux dans le top 5. Est-ce que vraiment c'est un manque de pas avoir de victoire d'étape? C'est seulement la troisième fois dans l'histoire du Tour. On a l'impression quand même qu'on peut relativiser.
Oui, voilà, il y a des explications, on peut relativiser. Pour moi, Bruno Armirail a gagné une étape quand même du Tour de France.
Oui, c'est vrai.
Je prends ce que je peux. Bah ouais, et dans son palmarès, il aura une victoire au Tour de France, hein, Bruno Armirail. Non, mais c'est sûr que c'est frustrant parce que, comme l'a dit Michel Callot, on a vraiment des coureurs de qualité capables de gagner une étape du Tour. Maintenant, on n'avait pas Paul Magny au niveau des sprints.
Par c'est
exemple.
Vrai. On a Coy qui a gagné. C'est vraiment ce qui a un peu changé le truc. L'absence de Paul Magny, ça a fait mal au cyclisme français sur ce Tour de France, au bilan.
Ouais, et après, on a Coy qui est dans une équipe française, mais qui n'est pas français. Donc voilà, il y a Valentin Paré-Peintre qui, lui, je pense, avait... Pour moi, Valentin Paré-Peintre, c'est typiquement le mec que quand tu cours après deux objectifs, bah finalement, à la fin du compte, des fois, tu n'arrives à en avoir aucun. Tu n'as aucun des deux. Cette année, il était beaucoup plus fort que l'année dernière, je pense, sur l'ensemble du Tour. Alors que l'année dernière, il gagne une étape. Là, il va chasser les poids et au final, il rentre bredouille. Mais ce n'est pas pour ça qu'il fait un mauvais tour. Mais typiquement, lui, s'il avait visé uniquement une étape et pas le classement du meilleur grimpeur, peut-être qu'il aurait eu une étape. Mais moi, je suis presque plus content... ça reflète plus pour moi le niveau du cyclisme français de voir trois coureurs dans les 10 premiers du classement général et deux dans le top 5 parce que en fait on dévalorise beaucoup trop le fait de faire un top 10 sur un Tour de France. On ne se rend pas compte de la difficulté que c'est pendant 3 semaines de s'accrocher tous les jours pour essayer de ne pas péter sur une étape difficile. Et en fait on se dit vaut mieux gagner une étape que faire 8e du Tour, parce que celui qui a fait 8e du Tour, à part sa grand-mère et son grand-père, il n'y a personne qui s'en rappelle. Moi j'aurais bien aimé faire top 10 du Tour parce que tu t'es accroché pendant 3 semaines, parce que peut-être que tu n'as pas les moyens d'aller gagner une étape. Et toi, ton truc, Jordan Jegat par exemple, c'est bien sûr qu'il a les moyens d'aller gagner une étape, mais sur ses qualités, il va souvent tomber sur un mec qui grimpe mieux que lui, mec qui a un petit peu plus de punch que lui, etc. Par contre, ça fait 2 années de suite qu'il fait top 10, Jordan Jegat. Donc il se bat avec ses armes, qui sont, il optimise tout son potentiel et il fait deux fois top 10. Et ça, on dévalorise un peu trop d'avoir trois coureurs dans le top 10 du classement général. Pour moi, ça vaut largement une étape. Je préfère ça que d'avoir une victoire d'étape et personne dans le top 10 ou quelqu'un à la 10e place, par exemple.
Faut aussi voir le pédigré des gars qui ont gagné des étapes cette année. T'as quand même Pogacar, Evenepoel, Carapaz, Van der Poel, Del Toro, Pedersen, Merlier, Philippe. Ça, c'est des tops. C'est des monuments, c'est des vainqueurs de grands tours.
Tu n'as aucune étape qui a été donnée à un coureur, entre guillemets, de seconde classe sur ce Tour de France. Franchement, ce sont tous des top coureurs. Je crois que celui qui était le moins bien classé au classement UCI était 60e.
Ouais,
c'est sur la victoire d'étape. C'est Warren Scholl. C'est incroyable. Ouais, voilà. La densité est incroyable.
Warren Scholl, c'est au sprint. Hein.
Oui.
De nouveau, on revient à ça, parce que des fois, tu as des surprises au sprint. Warren Scholl, c'est peut-être la seule surprise de ce tour, mais c'est sur un sprint. Si on avait eu Paul Magnier, est-ce qu'on aurait préféré voir Paul Magnier gagner une étape du tour et avoir personne dans le top 10 ou un coureur français à la 10e place? Je ne suis pas sûr.
Oui, forcément. Non. En tout cas, il y a de l'espoir quand même. Quand on aura Paul Magnier sur le tour, on devrait aller en chercher quelques-unes. Et Paul Sexas va faire que s'améliorer. Lenny Martinez aussi est passé pas loin.
Et on rappelle que le dernier maillot vert français, c'est Laurent Jalabert. Donc ça commence aussi à remonter.
Alors là, il va falloir décrocher Mats Pedersen pour aller chercher le maillot vert. Paul Magnier, j'y crois pas, vu comment maintenant les points sont répartis. Faudra bien passer les boss. Juste un dernier mot. On parlait justement des vainqueurs qui sont juste incroyables. Il n'y a pas plus grande course au monde que le Tour de France. Pas de course la plus relevée. Et on le voit avec les vainqueurs. Un mot sur Montmartre. Ah, c'était une étape de légende hier. C'est la plus belle de ce tour. Tu te posais la question tout à l'heure, Jérôme, mais une des plus belles, certainement, même de l'histoire du Tour de France. N'ayons pas peur des mots. Ce qu'on a vu hier, c'était juste exceptionnel. Peut-être même sur les arrivées seulement aux Champs-Élysées. Est-ce qu'il y a eu plus beau que ça, Jérôme?
Ben, je crois pas, je crois pas. Et pourtant, moi, je faisais partie un peu des sceptiques quand ils ont introduit ce nouveau circuit l'année dernière, parce que j'avais le souvenir de quand j'étais coureur de, oui, cette parade un peu aux Champs-Élysées, mais c'était un peu le mythe du Tour de France. Et puis, tu savais que finalement, tu avais un peu une étape en moins, tu pouvais vraiment profiter de cette dernière étape. Donc, moi, j'étais plutôt partant pour faire une alternance entre la butte Montmartre et le parcours classique autour des Champs-Élysées. Mais hier, ça m'a complètement changé mon état d'esprit. Je veux dire, et le fait qu'ils aient déplacé un petit peu la ligne par rapport au sommet de la butte Montmartre. Ouais, finalement, en fait, l'année dernière, c'était peut-être l'arrivée était peut-être un peu trop proche. S'ils avaient mis l'arrivée plus loin, bah, on aurait vraiment eu un sprint massif. Ça aurait été un peu trop loin. Là, je crois qu'ils ont trouvé la formule idéale. Puis bon, après, après, t'as le scénario qui va avec. Donc hier, il y avait tout pour que ça soit, en tout cas, l'étape du Tour est une des plus légendaires du Tour.
C'était la plus belle étape de ce Tour.
Mais c'était magnifique. Comment on a fait pour mettre 120 ans à découvrir ce truc-là qu'on a envie de revoir chaque année?
Merci les jeux.
Merci. Et parce que là, on se dit, c'était une étape, un scénario légendaire. Mais tu la refais demain, il y a ce même scénario. Oui. C'est peut-être ça, c'est peut-être l'effet Pogacar. C'est qu'on est sur une époque où les grands fauves du peloton sont dans un état d'esprit de, allez, venez, on s'amuse, venez, on match un peu. Et là, c'était ça. Et d'ailleurs, Pogacar, ça va peut-être devenir une de ses obsessions. Parce que l'an dernier, il se fait battre par Van Aert. Là, il se fait battre par Van Der Poel.
Deux ans de suite, ça va commencer à le titiller, je pense.
Il n'y a pas beaucoup de choses qui lui résistent. À mon avis, il va vouloir la gagner, celle-là. Et ça va que améliorer le spectacle.
Mais en plus, comme ils enlèvent les temps pour le classement général, ça devient presque une classique. Totalement. C'est presque en dehors du Tour de France maintenant.
Mais franchement, on était hier dans le camion RMC avec les deux Jérôme, avec Christophe, avec Pierre-Yves. C'était incroyable. L'ambiance rue Le Pic. Et pourtant, on se disait, bon, il y a eu les Jeux Olympiques, il y a eu la première année, comment ça va être la deuxième année? Est-ce qu'il va y avoir une descente d'ambiance? Non, en fait. C'était fou de A à Z. Cette montée de la butte Montmartre, franchement incroyable. Et ce scénario, mais ça se joue à rien. Et puis, enfin voilà, c'était exceptionnel. Je pense que j'en ai encore les étoiles dans les yeux en parlant. C'était vraiment génial.
Et rappelez-vous le sommet de la deuxième montée de Montmartre. Mmh. Alors, de mémoire, on a donc Van der Poel, Pogacar, Mats Pedersen, maillot vert. Ouais. On a Remco Evenepoel qui est là.
La photo est folle.
On a les deux premiers du classement général. C'est juste incroyable. Et Isaac Del Toro, malheureusement, est crevé. Mais je pense qu'Isaac Del Toro...
Il aurait été dans le coup.
Ouais, aurait été dans le coup. Et même avec un Paul Sexas qui roule pour Olaf Koy. Bref, c'était une étape légendaire. On devait terminer... par ça, mais c'est pas fini encore. Je vais vous demander vos connaissances sur ce Tour de France. Je vais vous demander déjà d'enlever toutes vos notes, parce que sinon, je connais les tricheurs. Jérôme, je te fais confiance. Évidemment,
Jamais.
Jamais. C'est parti pour le quiz.
Le sprint final du peloton RMC.
Je vous ai préparé 8 questions. Les amis, la première. Avec quel est l'écart exact entre Tadej Pogacar et Remco Evenepoel au classement général de ce Tour de France?
6-26.
Ah, une bonne réponse.
Maxime, tu l'as dit tout à l'heure en plus. C'est
oui,
comme en ça.
Oui, bien sûr. Mais je savais. De toute façon, c'était une question pour savoir si vous écoutiez les autres. Voilà. 6-26 donc entre Tadej Pogacar et Remco Evenepoel sur ce Tour de France. Question difficile. Qui a terminé? Vous allez halluciner. Je vois déjà les yeux de François. Qui a terminé 125e de ce Tour de France?
125e.
C'est pas si difficile. Hein.
Julien Alaphilippe.
Julien Alaphilippe, bonne réponse. Julien Alaphilippe qui a annoncé quasiment
c'était que c'était son dernier, ouais.
Son dernier Tour de France.
L'image d'ailleurs de Julien dans la rue Le Pic à Montmartre, ouais. Exceptionnelle.
C'est régalé.
Avec la foule.
Il a profité, Julien Alaphilippe, jusqu'au bout. Donc Julien qui a peut-être dit adieu au Tour de France. Il lui restera une année de contrat, mais après il a quasiment acté hein, que ça sera la retraite pour lui à la fin d'année de 2027. Troisième question les amis, un partout, donc entre Maxime Martinez, Jérôme Coppel, 0 pour François. Troisième question, combien de Français ont terminé le Tour de France?
8.
26.
Oh, non, ils étaient 30. Ouais,
28. Ah, aucune bonne réponse pour l'instant, c'était 29. Il n'y en a qu'un seul qui a abandonné. Est-ce que vous avez le nom?
Un Français qui a abandonné.
C'était la première étape, chrono par équipe.
Ah oui, Groupama FDJ.
Ah, merde, oui.
Le protocole commotion.
Est-ce que vous l'avez?
Berthet.
J'allais te donner un indice. C'est le mari d'une coureuse connue.
Ah bah oui.
Et oui, c'est Clément Berthet, mari de Juliette Berthet, qui a abandonné hein, malheureusement après la chute avec Guillaume Martin. Clément Berthet, qui était pourtant hein, peut-être le leader hein, de cette équipe, qui aurait pu terminer dans le top 20. Allez, je te donne un demi-point si tu veux. Allez, t'as dit 28 et Clément Berthet. Allez, je te donne un point, je suis gentil. Vous savez que le record de Marco Pantani a été battu sur la montée de l'Alpe d'Huez par Tadej Pogacar. Mais il date de quand? De quelle année?
1995.
95. Ouais, pour Maxime Martinez.
Mon année de naissance.
Tu vois, j'en parlais avec Roxane Lacusca, la productrice. Je savais qu'il y avait un piège. Je savais que t'allais te tromper, Jérôme. Avec 90.
Mais François joue pas, par contre.
Eh si, je joue.
Il est rapide. Je demande.
Ouais. Les amis. Attention, je vais vous demander tour à tour de citer tous les vainqueurs d'étape. Mais comme François l'a fait un petit peu tout à l'heure, je vous demande dans l'ordre.
Oh okay. Punaise.
Okay. On commence avec toi, François.
Alors, j'ai pas besoin de dire tous les mecs de la Visma sur le. Ok.
Ça compte. La Visma Lisobek qui remporte le chrono par équipe. Jérôme.
Del Toro.
Ouais. Maxime.
Ah. Je vais. Ouais, je sens mal. Merlier.
Non. Éliminé. Non.
Pogacar,
François.
Ah mais oui.
Jérôme, c'est un duel entre Jérôme et François. Jérôme, vainqueur de la quatrième étape.
C'est Pedersen.
Pedersen.
Oh putain.
Bien joué. François, vainqueur de la cinquième.
Je dirais Merlier.
Et non, c'est Olaf Koy. Ah, la cinquième étape.
C'est le premier en plus, je suis bête.
Mais je vais demander de valider ta victoire, Jérôme, parce que c'est François qui a commencé. Vainqueur de la sixième étape.
C'est un sprint aussi, non? Merlier?
Et non, c'était Tadej Pogacar. C'était le Tourmalet. Eh oui, première étape de Bretagne.
Je croyais qu'il y avait eu deux de suite au sprint.
Et non, et après, on avait Tim Merlier à deux de suite, septième et huitième étape. Pas de vainqueur pour cette question. Mais oui, sinon, si je demandais tous les vainqueurs, c'était beaucoup trop facile. Vu qu'il n'y a que des
stars. Dans l'ordre, c'est ouf.
Ouais. À part Mauro Schmidt et Warren Scholl, je pense que sinon, il n'y avait pas de piège. Sixième question. Qui est le coureur qui a passé le plus de kilomètres échappé sur cette
édition?
Carapace.
Aucune bonne réponse pour l'instant, je vous donne une autre chance.
Pogacar.
Non.
Le plus de kilomètres échappés.
Ouais.
Valentin Paré-Peintre.
Non. Dernière chance.
Schmid.
Non. Okay. François.
Réfléchis.
Ah, c'est compliqué, hein.
Ouais.
Allez. Non, éliminer sa coureur de la Movistar.
Castrillo,
Garcia Pierna. Garcia Pierna avec 620 km en tête de groupe, parce que c'est plus de 800 je crois dans échappé, mais il pouvait être dans un deuxième voire troisième groupe. Et pour Weisstrofer, c'est 507. Donc voilà, on a beaucoup plus vu à l'avant.
l'Espagnol que le Français. Pas de vainqueur. Pour l'instant, on a combien de 2 pour toi, Maxime ?
Oui, ça doit être ça.
Ouais, peut-être 2 pour Jérôme. On va compter Clément Berthet. 0. Ouais,
moi, tu me couperas en montage. Ouais,
je te couperai. Avant-dernière question. Vingegaard a abandonné sur la 15e étape. On en a parlé. C'est celle du plateau de Solaison. Mais d'où partait cette étape ? En direction
Champagnole.
Champagnole, bonne réponse. Il prend l'avantage, Jérôme Coppel. 3, 2, 0. Cette question peut tout changer, j'accorde 4 points.
Ok. Oh,
vas-y, balance.
L'arnaque.
C'est une arnaque. Isaac Del Toro a écrit l'histoire de son pays avec ce maillot blanc et ce podium final sur le Tour de France. Mais un Mexicain avait déjà levé
Lucho
les bras
Herrera.
Sur le Tour de France. Qui ?
Lucho Herrera.
Non.
Non ?
Fischer, Murillo Fischer.
Non.
Mais non, mais je suis idiot, Herrera et colombien. Je suis
ouais.
Non.
Je vous donne les dates. C'est deux victoires d'étape, une en 89, une en 90. Est-ce que vous l'avez, le Mexicain qui a levé les bras à deux reprises sur le Tour de France ? Ah, c'est dur, hein ?
Attends, j'ai regardé le DVD du Tour de France 90 plus d'une fois, mais j'en ai aucun souvenir.
Je vous donne son prénom.
Ouais.
Raoul.
Alcala.
Ah, Alcala. Et là, Jérôme, il mérite cette victoire. Raoul Alcala, ouais, deux victoires d'étape. Et donc pour le Mexicain en 89 et 90, c'est Isaac Del Toro qui lui succède. Mais bon, voilà, c'est vrai que le cyclisme mexicain, on l'a pas beaucoup vu dans l'histoire. Et Del Toro le relance un petit peu. Merci monsieur d'avoir participé. Félicitations Jérôme. Immense victoire pour toi. Voilà.
Très belle victoire.
Bravo. Voilà. T'as peut-être jamais fait top 10 dans le Tour de France, mais t'as gagné le quiz. Et ça, c'est magnifique. Le podcast du peloton RMC à écouter sur votre plateforme préférée. Hein. Mettez 5 étoiles, abonnez-vous pour ne rien rater. On fera aussi un podcast sur le Tour de France Femmes qui va débuter, qui sera à suivre sur RMC du 1er au 9 août. On ne ratera rien. Il y aura un intégral tour.
Présenté par
spécial.
Qui l'intégral tour, dis donc
Je m'en charge.
Un certain Johan Bredov, je crois.
Flora Moussi aussi sera pour présenter. On sera avec Maria Azé, Pierre Thévenet, nos journalistes RMC pour suivre. Cette édition, il y aura également Camille Faye qui a participé 2 fois au Tour de France en tant que consultante. Ça sera à suivre tous les jours. On sortira même un podcast spécial pour vous présenter cette édition et le duel à venir entre Pauline Ferrand-Prévot qui essaiera de conserver son titre et Demi Vollering, la coureuse de la FDJ Suez qui sera là sa principale concurrente. Merci Jérôme, merci François, merci Maxime.
Merci
on se retrouve
merci.
Très vite
merci.
Dans le peloton RMC. Salut à tous.
Le peloton RMC.